Les infos choisies.
Chaque vendredi de 12h30 à 13h.
Sur Radio Galère à Marseille
et Ayoli Radio à Avignon.
Des infos
qui nous touchent,
qui nous concernent,
qui nous ressemblent,
qui nous parlent,
qui nous donnent de la force,
qui nous font réagir.
C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies.
Bonjour.
Salut tout le monde. C'est les infos choisies, c'est Radio Galère 88.4, 12h30, et comme tous les vendredis, on vous retrouve pour une demi-heure d'infos choisies. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir deux personnes de Technopolis, et voilà, on va vous en dire un peu plus tout à l'heure.
Un petit édito ? Allez, on m'entend assez bien. Alors, et oui, c'est l'été et il fait chaud. Le contraire aurait été inquiétant. Et c'est sous cette chaleur plombante que les luttes continuent. Depuis samedi 13 juillet, une cinquantaine de jeunes exilés occupent l'église Saint-Féréol avec comme revendication la prise en charge par le département qui se défausse de sa responsabilité en niant le fait qu'il soit mineur, malgré les recours déposés par les jeunes pour prouver le contraire. Nous voulons rappeler ici l'infamie de la loi par les prises en charge départementales des mineurs isolés, qui ne sont effectuées qu'après une évaluation de leur isolement social. À la seule charge du département d'évaluer les isolements selon des critères qu'ils ont, eux, élaborés et qu'ils peuvent, eux, faire ce qu'ils veulent, dont ils peuvent, eux, faire ce qu'ils veulent. De plus, si cela est contredit par les dites instances qui ont la possibilité... Les dites instances peuvent avoir la possibilité d'avoir recours aux tests osseux. Là, on est dans le plus crasse héritage de l'histoire coloniale. Ce test se base sur la comparaison d'une radiographie de la main et du poignet avec des planches de référence par tranche d'âge qui datent de, tenez-vous bien, 1931 et 1942. Et oui, on en est là. Et cela, bien avant la dissolution de l'Assemblée et du énième rebond antifasciste citoyen qu'a connu ces dernières semaines. L'année dernière, le Sénat, dans sa grande mansuétude, a voté l'interdiction des recours aux examens radiologiques osseux. À savoir si l'Assemblée d'aujourd'hui arrivera à se mettre d'accord sur son application, c'est une autre affaire. En attendant, les jeunes luttent, ils sont déterminés et courageux. Ils ont ici tout notre soutien et notre reconnaissance pour toutes les leçons de vie qu'ils nous apportent. L'occupation de l'église Saint-Férol sur le Vieux-Port est toujours en cours et en ce moment même est organisé un goûter avec les femmes de chambre en lutte du Radisson. Vive la lutte et la solidarité.
Les infos choisies, vendredi, 12h30.
Les infos choisies, vendredi, 12h30.
Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Club et Pierre du collectif Technopolis. On va évoquer les mesures de surveillance, de fichage, de fichage, de répression autour des Jeux Olympiques notamment. Et ben du coup, merci beaucoup d'être là. Et est-ce que vous pouvez commencer par présenter rapidement le collectif Technopolis.
Oui, bonjour. Moi, c'est Pierre, donc je fais partie du collectif Technopolis. Technopolis, au départ, c'est une initiative d'une association qui s'appelle La Quadrature du Net, que certaines personnes connaissent peut-être, qui est depuis un moment à lutter pour les libertés concernant le numérique. Et donc, c'est une initiative qui vise à lutter contre l'installation de vidéosurveillance en France. Et de là, se sont formés des collectifs locaux qui permettent d'effectuer une veille documentaire et d'être un peu plus présent partout en France. Donc le collectif de Marseille, c'est peut-être le plus large. Il y a aussi pas mal de monde à Montpellier, un peu à Paris, et des gens un peu partout sur le territoire. Et ici en particulier, on se réunit tous les deuxièmes jeudis du mois à Manifesten, sauf l'été, le 59 rue Thiers. Donc voilà.
Et donc là, on est ici pour parler surtout des... Enfin, pour parler en tout cas une des questions qu'on vous a posées auparavant. C'est pour parler des dispositifs de surveillance qui sont déjà utilisés et qui ont été légalisés en vue des JO à venir, enfin qui vont avoir lieu là.
Oui, alors bon, la France, elle n'a pas attendu du tout qu'il y ait les JO pour quadriller l'espace public avec des technologies de surveillance, hein, mais... La première chose qui a été installée en France, ça a été les caméras classiques utilisées par la police depuis les années 90 à peu près, sans compter les drones, les caméras piétons, tout ça, qui sont utilisées pour les enquêtes aussi. Tu as les écoutes téléphoniques, la surveillance physique. Tout ça, c'est des dispositifs légaux. Il y a aussi pas mal de technologies qui sont utilisées depuis un certain temps, qui sont totalement illégales. La plus répandue, ça va être ce qu'on appelle la VSA, la vidéosurveillance automatisée ou algorithmique. C'est des logiciels que la police utilise qui ont recours à des algorithmes de détection d'objets, de personnes, de comportements qu'ils ont déterminés comme suspects. Donc ça peut être des personnes allongées au sol, des gens qui vont à contresens d'un sens de circulation. Il y a plein de situations comme ça qui sont décrétées comme suspectes. Voilà. Et pour les JO, bah c'est un peu ça qui est expérimenté. On reviendra là-dessus après.
Oui, le cadre juridique, il est assez clair, hein, sur la vidéosurveillance algorithmique. C'est totalement illégal. Pourtant, depuis, il y a environ 200 villes en France qui utilisent par exemple un logiciel qui s'appelle Briefcam, qui est un logiciel israélien de vidéosurveillance algorithmique et de reconnaissance faciale. Il y a Brest, Vannes, Reims ou même Marseille, dont on va reparler. C'est illégal, mais pourtant c'est utilisé en fait depuis une dizaine d'années. Et personne ne respecte la loi. Même le ministère de l'Intérieur ne respecte pas la loi, puisque depuis 2015, je crois, c'est sorti l'année dernière dans la presse, dans Disclose, il a apparu que le ministère de l'Intérieur, via les polices nationales, les préfectures, notamment celle du Bouches-du-Rhône, utilise ce même logiciel. Donc l'impunité, elle est absolument totale. Il y a une enquête en cours, mais Darmanin a estimé que ce n'était pas hyper important et qu'il pouvait quand même l'utiliser.
C'est pas la priorité.
L'enquête est enterrée, on verra quoi. Donc c'est illégal, mais quand même là. Et donc les Jeux Olympiques vont permettre en fait de un peu valider un état de fait. Marseille, ça fait un moment aussi, hein, le collectif a fait apparaître dès 2018 qu'il y avait ces technologies qui étaient utilisées, donc la vidéosurveillance algorithmique sur une cinquantaine de caméras. Mais tout ça, c'est indépendant des JO, ça existait avant et ça subsistera après.
Oui, comme la carte qui avait été produite sur toutes les caméras justement qui utilisaient ces...
Exactement, ces... Ouais. Donc ça, c'est le collectif Technopolis en fait, hein, et on pourra expliquer ce qu'on fait un peu plus en détail, mais on a toute une partie effectivement de visibilisation des caméras. Bon, là, pour la vidéosurveillance algorithmique, on ne sait pas précisément où est-ce qu'elle est utilisée, parce que c'est des logiciels, c'est des licences, et puis évidemment, tout ça est très opaque, donc en fait, on ne sait pas précisément, mais bon, on a quand même une petite idée. Et parmi les choses qui sont expérimentées à Marseille, en ce moment, il y a un programme européen qui s'appelle Prevent PCP, qui est utilisé à la gare Saint-Charles, qui a été aussi déployé à Paris, à Gare de Lyon, Gare du Nord, etc., qui permet, donc sous le prétexte un peu bienveillant de... toujours hein, ces espèces de prétextes d'apparence anodine, de retrouver des bagages abandonnés, de suivre des personnes très précises à travers la gare ou même à travers un train, etc., d'une ville à l'autre. Voilà, donc on a déposé plainte, à Technopolis, mais à la CNIL. On verra ce qu'il en est, mais en tout cas, voilà, ça fait un moment que c'est utilisé pour préparer un peu le terrain à la loi Jeux Olympiques qui a été promulguée en mai 2023.
Oui, voilà, parce qu'en fait, tu disais que c'était hors de tout cadre légal. Et c'était en dehors de tout cadre légal, mais à la fois, il y a un cadre, j'ai l'impression, qui va... Est-ce que dans le contexte des JO, il y a vraiment un cadre, une loi, est-ce que tous ces dispositifs-là, ils sont légalisés, quoi, en fait ?
Alors... Au niveau de la légalisation de ça, c'est un peu comme ils disent, c'est à événement exceptionnel, mesure exceptionnelle. Les JO, ils servent surtout de showroom du maintien de l'ordre, entre guillemets, de showroom de la répression. C'est l'occasion rêvée pour l'État de faire une démonstration de force et d'accroître sa politique autoritaire. L'article 10 de la loi JO, c'est celui-là qui fournit ce cadre expérimental à la vidéosurveillance algorithmique. Ça ne la légalise pas partout. C'est sous réserve d'arrêté préfectoral. N'importe quel événement susceptible d'accueillir pas mal de monde peut donner lieu à une expérimentation locale. Ça ne se limite pas du tout au JO. Il faut juste pouvoir justifier d'une menace quelconque. Alors ça va être le terrorisme souvent, la sécurité des personnes s'il y a beaucoup de monde. Voilà, c'est toujours... Il y a un bien fondé normalement. Et derrière, tu as toute une industrie qui se presse à la porte. Il y a un consortium d'entreprises de la tech qui fournit un bon paquet d'outils qui sont censés être mis à l'épreuve olympique, entre guillemets. Et ça ne se limite pas non plus à une utilisation strictement policière. Dans la même veine que la loi SG, les agents de la loi SG, c'est la loi sécurité globale qui est à moitié passée il y a quelques temps, les agents de la SNCF, de la RATP, de la municipale ou de la gendarmerie vont pouvoir collaborer et auront accès à ces expérimentations. En plus de ces algorithmes, il y a le retour des fameux drones aussi, qui étaient interdits mais qui ont été déployés illégalement pendant le confinement. Cette fois, ils sont autorisés par la loi JO, pareil, sous réserve d'arrêté préfectoral. Alors, on a pu voir récemment que des cités marseillaises avaient été quadrillées par des drones pour, dans le cadre d'opération de com contre le trafic de stupes. Ça, c'est pas la loi JO, c'est une partie de la loi SG, enfin, c'est une annexe qui est passée en 2023, qui permet ces déploiements, mais... en les limitant à une opération policière. La loi JO, elle permet de dire bah, « il y aura du monde, on va déployer ça ». Donc en ce moment, là, du 16 juillet au 12 août, tout le périmètre élargi de la marina de Marseille est quadrillé par deux drones qui peuvent patrouiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça fait longtemps que la droite, elle essaye d'installer davantage de surveillance. C'est juste un prétexte de plus, sous couvert de temporalité réduite. En fait, c'est un espèce de cheval de Troie. Il parle d'expérimentation, c'est poussé par l'industrie qui a beaucoup à gagner en imposant son offre. C'est aussi défendu par l'agenda politique de la droite, hein, qui aime beaucoup la répression et le fantasme de contrôle. Et tout ça qui se présente comme une simple expérimentation, en fait, c'est comme dans la publicité, on nous familiarise à un contrôle par effet de simple exposition. On nous familiarise avec ces trucs-là. Et par effet de cliquer, c'est installé. Puisqu'elles sont déjà là, en fait, on finit par les adopter, on en hérite, puisque c'est là. Pourquoi ne pas continuer
Et ça va être présenté comme des avancées, comme quelque chose qui va, en gros, renforcer la sécurité. Et du coup, pourquoi on serait contre, en fait? C'est un peu ça.
C'est ça. Et là, Pierre, tu détaillais les mesures donc prises à l'occasion des JO et qui mobilisent davantage de moyens technologiques, des algorithmes, davantage de caméras, etc. On a vu aussi que les Jeux Olympiques là sont l'occasion d'accroître encore plus la répression policière de masse comme ça, mais aussi ciblée et individuelle. Mais déjà dans la rue, on a vu beaucoup d'interdictions de manifestations. Sur tout le trajet de la flamme, notamment à Marseille, à Aix, donc il y a plusieurs types de contestations, enfin tout type de contestations sont ciblées, mais principalement tout ce qui a trait au soutien à la Palestine, avec confiscation de kéfiers ou de banderoles qui revendiquent le soutien aux Palestiniens, palestiniennes. Pareil, tout ce qui est contestation des Jeux Olympiques. On l'a vu à Marseille avec des banderoles qui sont confisquées, des gardes à vue de personnes, de militants, de XR par exemple, qui sont arrêtés avant, après le cortège. Ça s'est vu à Arles, à Forcalquier. Enfin, voilà, y a différents exemples en fait, tout le long du trajet de la flamme pour vraiment faire que c'est un événement populaire sans aucune contestation et tout va bien, c'est un peu Disney, quoi.
Sans compter aussi les assignations à résidence. Exactement. Pour toutes les personnes.
Exactement. Donc c'est juste là, ouais, effectivement. Donc il y a pour juste finir sur les interdictions un peu de liberté d'expression, il y a aussi des restrictions de liberté de circulation et de déplacement avec le retour des QR codes qui font aussi, donc ça c'est notamment en Seine-Saint-Denis à Paris, mais qui dit QR code dit aussi enquête sur les personnes qui demandent à avoir des QR codes, avec des personnes qui aussi demandent des autorisations de travailler en fait à l'occasion des Jeux Olympiques qui se les voient refuser sans motif valable, mais ils ont vaguement été militants dans le passé, donc en fait ça pourrait être ça. Le retour des périmètres de sécurité avec de nombreuses fouilles. On l'avait vu aussi à Marseille à l'arrivée de la flamme où juste pour aller simplement sur le Vieux-Port, il fallait passer des portiques de sécurité, se faire fouiller des pieds à la tête. Et puis ensuite, des surveillances individuelles et ciblées. Donc ça, c'est ce qui a été permis, on pourra aussi l'expliquer un peu plus en détail, mais par les différents empilements de lois sécuritaires type loi d'urgence, état d'urgence, etc., mais qui permettent de la surveillance administrative sur des personnes ciblées. Donc on a vu, c'est des chiffres qui sont très impressionnants, il y a eu plus de 1 million d'enquêtes administratives sur des personnes. Donc tous les gens qui demandent des accréditations en fait, pour travailler, c'est très vaste. Hein. Ça peut être travailler à l'aéroport, à la gare, ou être traiteur pour un événement
être
des Jeux Olympiques.
Périmètre.
Et dans le périmètre, enfin, toute personne qui va travailler en fait, pour les Jeux Olympiques a été comme ça soumise à une enquête avec des personnes qui se voient du coup refuser des permis de travail, etc. Et avec des explications qui sont pas toujours données ou plutôt fumeuses.
Sachant qu'aussi, dans le périmètre des JO, en tout cas à Paris, il y a des structures de santé.
Mmh,
et donc,
ouais.
Par rapport à même l'accès aux soins pour les personnes, ça devient complètement compliqué.
Absolument, et
notamment des centres de planification où les personnes doivent pouvoir y accéder anonymement et gratuitement.
Mmh. Sauf que là, ils doivent donner, parce que qui dit postuler pour un QR code, évidemment, demande carte d'identité, etc., et plein de détails. Et aussi, donc, on a vu là beaucoup de MICAS. Il y en a eu plus de 160 qui ont été publiés. Ça veut dire mesures individuelles de contrôle et de surveillance. Donc, c'est le nouveau nom pour les assignations à résidence. Donc, en fait, les gens n'ont plus le droit de sortir d'un périmètre défini et doivent pointer au commissariat plusieurs fois par jour ou par semaine. Donc, pareil, des personnes qui ont perdu leur travail. C'est des personnes parfois qui ont. Il y a eu un article, je vous recommande si vous êtes abonné, de lire dans Mediapart avec pas mal de témoignages de personnes qui perdent leur travail. Ils ont été relaxés, par exemple, il y a une dizaine d'années, mais là, comme il y a cette interdiction de circuler, ils ne peuvent plus sortir de chez eux. Enfin, c'est vraiment effrayant. Et l'idée, c'est vraiment d'éloigner les gens des périmètres de manifestation ou des lieux sensibles. Et ça rejoint, en fait, tout un peu une vague qu'on a vue récemment de mise en place de mesures administratives pour réprimer des mouvements sociaux ou des mouvements politiques de contestation. On l'a vu, par exemple, l'utilisation de la SDAT, qui est une brigade de répression de terrorisme, en fait, qui est utilisée contre, par exemple, les personnes qui ont été qui sont impliquées dans l'affaire Lafarge à Bouygues-Bélair. En Kanaky, les militants indépendantistes qui ont été... c'est ce type de régime-là, en fait, qui les poursuit. Et donc, c'est vraiment de la justice qui est proche de l'arbitraire, en tout cas, qui sort du juron... judiciaire, quoi, pour être de l'administratif. Donc c'est la volonté du gouvernement qui s'applique. Et là, c'est dans le cadre des Jeux Olympiques, c'est très clair que les mêmes types de surveillance sont utilisés.
Peut-être qu'on va s'écouter une petite musique et on vous retrouve tout à l'heure.
Ok, on écoute Frère Jack, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Ça s'appelle Honte France. À toutes.
Il revient à ma mémoire des souvenirs par milliers. Je revois les ombres noires de centaines de policiers. Sur le chemin de la révolte, je criais à pleine voix des colères à mille volts et des slogans pleins d'émoi. Honte France, cher ennemi de mon enfance, berceau de l'intolérance, tu ravives des douleurs. Honte France, cher ennemi de mon enfance, berceau de l'intolérance, tu ravives des douleurs. Tes messages de massacre en esclavage ne nettoieront pas les pages de ton livre des horreurs. Oui, tu m'aimes quand je te remplace même. Oui, tu m'aimes, surtout comme souffre-douleur. Honte France, cher ennemi de mon enfance, berceau de l'intolérance, tu ravives des douleurs.
triste France, cher ennemi de mon enfance, berceau de l'intolérance, tu ravives des douleurs.
Vous êtes toujours sur Radio Galère, c'est les infos choisies. Donc je vous rappelle, on est en présence de deux personnes du collectif Technopolis et pour parler des mesures de surveillance en rapport avec les JO. Et ce que je me demandais un peu, c'est est-ce que vous avez des exemples de mesures qui ont été prises de manière temporaire, un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure, ce que vous expliquiez tout à l'heure. Des mesures qui ont été prises de manière temporaire ou qui ont été présentées comme ça, à l'occasion d'événements précis et qui auraient été pérennisées par la suite.
Oui, totalement, c'est devenu un peu une habitude, donc les exemples, ils sont nombreux. Il y a aussi de nombreuses villes hôtes précédentes des Jeux Olympiques qui ont vu, pareil, des mesures similaires, en fait, rentrer dans le droit commun à Tokyo, à Londres, etc., avec les vidéos, la reconnaissance faciale, etc. Et c'est des événements qui sont souvent utilisés comme un peu un cheval de Troie, quoi, pour pérenniser des mesures d'exception. Donc on l'a vu, les grands événements comme ça, donc avec toute une rhétorique de la crise, de l'urgence, du terrorisme, qui ont été utilisés notamment par François Hollande et Emmanuel Macron depuis une dizaine d'années pour faire entrer dans le droit commun des mesures qui étaient censées être exceptionnelles ou dérogatives ou exceptionnelles et temporaires, qui sont de plus en plus et même systématiquement maintenant accompagné de technologies, d'ajouts de technologies et l'idée de faire aussi baisser les contre-pouvoirs, notamment la CNIL, qui peuvent de moins en moins réagir. Et le pivot vraiment en France, ça a été en 2015, l'état d'urgence, qui a vraiment bouleversé en fait le fonctionnement de l'État en modifiant l'équilibre historique qu'il y avait entre les institutions, donc en l'équilibre des pouvoirs entre le judiciaire et l'exécutif, avec les juges judiciaires qui ont perdu du pouvoir au profit en fait du pouvoir administratif. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, ça s'est traduit concrètement dans le droit commun par la loi S-SILT de 2017. Et concrètement, ce que ça change, c'est qu'on voit le ministre de l'Intérieur, donc Darmanin aujourd'hui, enfin avant, hier, qui peut prononcer des assignations à résidence, donc c'est les fameuses MICAS là, qu'on a vues, qui peut dissoudre aussi des associations. Donc c'est ce qu'on avait vu avec le bloc Lorrain, la GAL ou le CCIF par exemple, ou les menaces pour les soulèvements de la terre, etc. Donc ça, c'est des mesures qu'avant il ne pouvait pas faire, mais maintenant il peut le faire grâce à, en utilisant l'état d'urgence rentré dans le droit commun. Les préfets ont aussi de plus en plus de pouvoir, donc c'est comme ça qu'ils peuvent maintenant faire interdire les manifestations. Qui mettent des drones, donc c'est ce que tu disais, les drones qui sont sortis pratiquement tous les jours aujourd'hui dans les quartiers, à Herbel, à la Busserine, etc. Ils peuvent couper les subventions aussi des associations, et puis c'est eux qui aujourd'hui mettent en place les arrêtés préfectoraux sur la loi Jeux Olympiques, en fait, sur l'utilisation des algorithmes. Et plus concrètement, après, en ce qui concerne particulièrement la Technopolis, on a vu que le nombre de fichiers de police a explosé, qu'il y a de moins en moins de contrôle à qui peut accéder. Donc ça mène aussi à énormément de dérives avec beaucoup de corruption, de flics en fait, qui vont se mettre à vendre les fichiers, puisque en fait, c'est vraiment très facile maintenant d'accéder aux fichiers de police, des fichiers très sensibles. Systématisation aussi de la prise de photos, de signalétique, d'ADN, où c'est devenu très difficile de pouvoir refuser en fait. Pareil, on est obligé de donner les infos du téléphone, ce genre de choses en garde à vue, et la banalisation de la reconnaissance faciale aussi avec le fichier étage que tu as évoqué. Et c'est aussi toute la kyrielle de sonorisation des lieux, des bagnoles. On l'avait vu sur Julien Leguet, il a mis un GPS sous sa voiture, le personne de Bassi, non merci. Enfin voilà, tout un arsenal en fait, c'est un peu débridé quoi. C'est un peu, voilà, maintenant on peut, en tout cas l'administration, donc le gouvernement, peut à des fins politiques maintenant mettre en place tout un tas de mesures de façon assez facile et à destination des répressions des mouvements militants, politiques, pour faire taire toute contestation.
Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont juste légalisé des pratiques qui existaient déjà, ou parce que du coup ils ont de leur côté du coup la justice qui permet de finalement ne plus les contredire, ou en tout cas d'avoir de moins en moins de recours, mais est-ce que c'est pas des pratiques qui existaient déjà depuis même 95, j'ai envie de dire, de...
Ça existait, mais du coup c'était quand même encadré. Il y avait ça prenait du temps de faire des demandes, il y avait quand même tout un protocole à respecter, c'était les juges qui les prenaient, c'était pas le ministère de l'Intérieur quoi. Donc là c'est aussi les garde-fous et là, comme la CNIL aussi, ou la qui disparaissent de plus en plus, qui ont de moins en moins de pouvoir et qui ont des avis un peu consultatifs plutôt que vraiment ils peuvent pas vraiment prendre d'action, donc on les consulte, bon ils disent non, ils disent que c'est pas bien, mais bon, c'est pas très grave quoi.
Alors, sinon, il y a quand même la lutte, hein. Et bon, quel genre de mesures vous pouvez, vous avez-vous déjà peut-être développé, ou alors en tout cas conseillé et auquel on peut s'associer?
Alors, ouais, ce qu'on fait nous, ça va être beaucoup un travail de veille documentaire. Donc, tous ces arrêtés, évidemment, ils sont pas faciles d'accès. Il faut regarder les recueils administratifs, guetter les marchés pour savoir si les villes se mettent à demander des outils de surveillance à des boîtes, parce que tout ça se passe en catimini, hein, la plupart du temps. Donc c'est tout ce travail-là de documenter, d'analyser, de voir ce que ces lois-là apportent, de guetter les marchés publics. Nous on essaye d'en faire une petite partie, communiquer autour de ça aussi. Nous on le fait un petit peu via des brochures, des événements, voilà, en venant ici aussi, voilà. Après il y a la campagne de la quadrature du net de la VSA qui consiste à écrire à son ou sa mère pour dire que non, on n'en veut pas dans cette ville de la vidéosurveillance automatisée. Bon, c'est peut-être pas forcément probant, mais ça permet de maintenir une pression électorale sur les élus. Et surtout, je pense que ce qu'il faut faire, c'est aussi penser autrement la sécurité, se réapproprier cette notion-là. On nous parle souvent de sécurité, de sécuritaire, tout ça, c'est pas se sentir en sécurité que d'être fliqué en permanence. Donc reprendre ces concepts-là, parler de sécurité alimentaire, sociale, de logement, d'emploi, voilà, reprendre nos mots, reprendre nos imaginaires. Eux, ils ont une vision du monde qui est ringarde, qui est complètement technosolutionniste. On leur vend des solutions dystopiques qui sont très très bancales. Enfin, faut pas croire que tous ces algorithmes, ça fait un monde, un espèce de grand Big Brother. C'est pas du tout le cas en réalité. C'est des technologies qui sont très dangereuses et qui font des dégâts, mais ça reste surtout une sorte de cadeau aux industries de la part des décideurs publics. On le voit par exemple, les grandes surfaces qui ont été démarchées pour des logiciels de vidéosurveillance automatisés l'ont beaucoup moins employé parce que c'est pas des marchés publics et qu'il y a un besoin de rentabilité. Là, pour les marchés publics, ils ont clairement pas la possibilité de se rendre compte que c'est un gouffre, c'est une pompe à fric, mais qui leur permet pas, ça leur permet pas tant que ça d'arriver à leur fin, quoi. C'est pas... On nous présente quelque chose de complètement dystopique, mais... c'est pas le cas, et nous on veut le dire, on veut lutter contre ça, parce que d'une part c'est inutile, et d'autre part on a une autre manière de penser la sécurité, on veut proposer ça en tout cas. Et sinon, ouais, si vous voulez rejoindre, nous c'est les deuxièmes jeudis du mois à Manifesten, 59 rue Thiers.
Ben, au moins ça a le mérite d'être clair. Parce que du coup, oui, effectivement, tu nous dis que ce qu'ils nous vendent, c'est un peu de l'esbrouf. Enfin, ce qu'ils leur vendent, c'est un peu de l'esbrouf.
Ça fait des dégâts.
Oui,
mais
ça fait des dégâts.
C'est beaucoup moins flippant que.
Voilà, parce que être surveillé en train de. Quand être surveillé pour. Enfin, je veux dire, la surveillance n'empêche pas de commettre des actes. Donc, juste de rappeler que, en fait, c'est pas parce qu'on le voit sur une caméra que ça va empêcher le fait d'être soit agressé, enfin, j'imagine dans les imaginaires qu'ils ont, quoi, tu vois, oui, soit volé, soit agressé, mais que ça leur sert pour des procédures contre. Donc, on se demande, enfin, je veux dire, c'est pas pour autant qu'on est en sécurité.
Non, surtout quand on voit qu'ils détournent les caméras des violences policières, il y a aussi. Bon.
Ça. Ouais. On passe à l'agenda. Merci. Allez, merci parti. d'être nous avoir accordé ce temps.
Merci
de l'avoir si bien préparé.
C'est l'agenda des infos choisies. Alors on commence samedi demain de 15h à 18h devant l'hôtel Radisson Blue sur le Vieux-Port. Il y aura un goûter pour soutenir les femmes de chambre en grève. Elles sont en grève depuis une cinquantaine de jours.
Toujours, pas toujours, dimanche. Dimanche, c'est quoi? C'est la manifestation hebdomadaire pour le cessez-le-feu en Palestine et contre les bombardements à Gaza. Donc c'est dimanche à 16h, Porte d'Aix. Et c'est suivi de l'escale de la flottille pour Gaza. Là, c'est le rendez-vous est à 19h à la plaine pour des discussions, des rencontres et un DJ set.
Et dimanche, toujours, il y aura une soirée de soutien aux femmes de chambre en grève du Radisson Blue. Ça commence à 18h, c'est à la Salle Gueule, au 8 rue d'Italie. Il y aura un concert, des DJ, une bouffe, et c'est pour ramener des thunes dans la caisse de grève, il faut les soutenir.
On rappelle juste qu'elles sont tous les matins de 10h à midi devant le Radisson, devant l'hôtel Radisson sur le Vieux-Port, qu'elles font un bruit d'enfer.
Oh ouais.
On a passé un entretien avec elles qu'on a passé sur les ondes il y a deux semaines, et elles sont toujours là, on invite les gens à y passer, et elles subissent un peu de pression ces derniers jours, et donc voilà, sur la semaine de mobilisation... trop forte, trop balèze, quoi.
Et vous pouvez réécouter l'émission sur radiogalère.org.
Cette émission touche à sa fin.
Merci beaucoup à nos invités.
Merci à la technique.
Allez. Et puis on se retrouve, je sais pas trop quand, peut-être la semaine prochaine, peut-être autrement. On a aussi des vacances.
Ouais. On vous salue bien.
D'ici là, portez-vous bien.
À bientôt.
Allez, à bientôt. Ciao, ciao.
Salut.
Oh, c'était beau.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.